Nous allons pouvoir commencer la présentation de ce livre. Nous sommes accueillis aujourd'hui dans les salons MOLA et nous remercions particulièrement Patrick Bourdet d'être venu de Washington depuis ce matin, hier, pour parler avec nous de son ouvrage et de participer à cette rencontre exceptionnelle, il faut bien le dire, avec celle qui a été... pour beaucoup dans sa destinée, c'est avec Anita Jules Benedito, puisque c'est sous ces deux noms qu'elle apparaît une fois dans le livre et une fois pour nous maintenant, puisqu'il y a 30 ans, ils se sont rencontrés, l'un avait 16 ans et l'autre était juge pour enfants. Donc je vais présenter les trois personnes de cette table. Donc, Patrick Bourdet, Anita Benedito et moi-même, Catherine Acaspol, psychanalyste, membre de l'École de la cause freudienne. Et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui, par quel hasard, un peu poussé de gauche et de droite, nous nous retrouvons ici. Mais peut-être avant, je dirais qu'il y a quelques points communs sans que l'on se soit jamais rencontrés. Entre nous trois, il me semble que nous avons en commun le fait de se méfier des jugements hâtifs, voire même des préjugés, des stéréotypes, des discriminations. Tous les trois, il me semble, nous aimons la liberté d'apprendre, de se déplacer, de décider et la liberté de parler, que nous avons conquis chacun pour notre propre compte. Et puis, il me semble que nous avons une ouverture toute spéciale au goût de la rencontre. Il y a entre nous trois des rencontres de tout genre, fortuites, providentielles, fâcheuses, des mauvaises rencontres, mais un goût nous a poussé toujours vers la rencontre de ce que l'on ne connaît pas encore, jusqu'à organiser cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, petite anecdote. En août dernier, un ami, Patrick, qui travaille dans la police, me donne à lire le livre de Patrick Bourdet. Il me dit « Tu vas voir, ça va t'intéresser ». Moi, c'était fin août, beaucoup de livres à lire, beaucoup de travail. Je lui dis, tu sais, il insiste un peu. Je me laisse faire. Il me prête le livre et il se trouve que j'ai un voyage d'une heure et demie à faire et que je le lis dans la voiture. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui conduisais, mais mon mari à qui je lis aussi des passages du livre. Et je vais jusqu'au bout de la lecture de ce livre, d'une seule traite, et à la fin, je vois « Remerciements ». Donc je lis les remerciements, il y figure des noms, celui d'un éducateur que j'ai croisé puisque côtoyé et puisque travaillé ensemble il y a 30 ans, je le reconnais tout de suite, et Anita Jules, dont je sais qu'elle s'appelle la bien nommée Benedito, celle qui affectionne le bien dire. Donc, comme je suis lacanienne et que Lacan m'a appris par le séminaire de la lettre volée qu'une lettre arrive toujours à destination, je me mets en tête de faire circuler ce remerciement jusqu'à Anita Benedito, que je rencontre de temps en temps. Et dans les salons de la librairie MOLA, au mois de septembre, je vois Anita. Mais au moment de lui dire, je lui dis, écoutez, j'ai lu un livre, je ne me rappelle pas du nom de l'auteur, je ne me rappelle pas de l'éditeur, le titre est très chouette, je ne me rappelle plus, mais je vais retrouver ça, il n'y a pas de raison. Je sais qu'il était PDG, mais je ne sais plus de quelle entreprise. Et Jean. Donc le gag, bon, elle me dit, je veux voir. Enfin bon. Et puis on se croise, et puis on se recroise dans plusieurs activités de psychanalyse qu'elle suit assidûment, et moi aussi. Et puis finalement, en octobre, je la croise dans la rue. Regardez le menu d'un restaurant. J'arrive, je sors mon téléphone, je lui dis, ça y est, cette fois je l'ai écrit sur mon téléphone, c'est Patrick Bourdet, ça s'appelle Rien n'est joué d'avance, L'éditeur, c'est Fayard, et il est PDG d'Areva Med. Elle me dit, ça ne me rappelle rien. J'en ai rencontré beaucoup de jeunes, je ne me rappelle pas. 15 jours après, je crois, il y a un article dans Sud-Ouest qui mentionne le livre, la rencontre qu'il y a.
Une interview
de Patrick Bourdet, et dans lequel il reparle d'Anita Benedetto.
Anita tout court.
Et là, dans l'article, il est mentionné qu'elle a été un juge de paix intérieure. Ce qui est une belle expression que je saisis. Et donc, par un truchement que je n'ai pas tout à fait saisi, ils ont fini par se téléphoner l'un et l'autre, ou l'autre et l'un, je ne sais pas. Ils vont vous l'expliquer. Et voilà. Et puis Anita me dit, mais vous savez, j'ai eu Patrick Bourdet, c'est absolument formidable et tout. Et bien, on va organiser une rencontre. Et nous voilà. Donc, le livre. Le livre de Rien n'est joué d'avance. Magnifique titre de Patrick Bourdet, qui a vécu, pour ceux qui ont lu son livre, quelque temps dans la région. Ce livre, il explique dès le début, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas des mémoires, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui commence par, d'emblée, dès les premières pages, faire tomber des préjugés. Par exemple, je prends ça au vol, placé dans une institution à ses 4 ans pendant 5 ans, Patrick Bourdet écrit « Je ne mesurais pas à quel point j'étais bien traité dans cette institution. Nous y étions en sécurité, nous, c'est son frère et sa sœur, et lui-même. Pendant les 5 années que nous avions passées là-bas, je ne crois pas avoir eu conscience de n'avoir pas de père ni de mère. » Je trouve très important parce que ça fait tomber un premier préjugé sur papa, maman, bon. Après le décès du père, un suicide, l'orphelinat, cette période heureuse, il est amené avec son frère et sa sœur dans le sud-ouest par sa mère et vit une sorte d'enfer dans une cabane dont il sort par la rencontre avec la juge, Anita. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ce livre, c'est le parcours d'un homme, ou plutôt d'un petit garçon, qui très tôt, trop tôt, a été en contact avec le danger d'une énergie dangereuse, violente, nocive, douloureuse, mortelle, d'une pulsion de mort. Mais ce petit garçon, cet homme, en a fait une énergie positive, forte, dense, vivante, une pulsion de vie, voire même un médicament contre le poison de la pulsion de mort. Le courage, l'audace, la pugnacité, il se qualifie lui-même de acharné, celui qui est passé du bac moins 3, c'est-à-dire d'un CAP de mécanicien, à bac plus 5, et si j'ai bien compris, sans avoir le bac. Puisqu'il a réussi à négocier son entrée à Subdeco, en allant voir le directeur, parce que c'est un homme de rencontre, et qui lui a dit, ok, d'accord, mais alors, il faudra aller jusqu'au bout, il vous faudra réussir. Qu'à cela ne tienne. Il a réussi. Patrick Bourdet a en lui, écrit-il, une boule de feu. Je rajoute, il est une boule de feu. Patrick Bourdet est un homme d'énergie qui a su passer de la boule d'angoisse et de feu à la boule d'énergie qui l'étreignait. Il a fait de cette boule d'énergie une énergie créatrice et inventive. Je voudrais bien qu'on déplie ça dans la conversation. Comment ça vous a permis de devenir créatif ? Ce livre, je l'ai déjà dit, va contre les préjugés, notamment du discours ambiant. Ceux qui voient dans le déterminisme social, biologique, psychologique, des causes à tout faire et des destins pour tout le monde. Donc, merci pour ce livre. parce que ça va contre cette idée-là. Merci aussi pour ce merveilleux titre. Rien n'est joué d'avance. Vous ne confondez pas répétition et déterminisme. Et ça, c'est très précieux. Vous nous faites connaître dans ce livre la contingence, ce qui pourrait ne pas arriver, mais qui arrive. Et ce qui sépare du déterminisme. Vous mettez en avant comment, dans le trajet de tout humain, le choix peut-être forcé, mais le choix d'un sujet, est ce qui guide sa vie. Ce livre trace un destin qui est transformé en une destinée. Il n'y a pas de fatum. Au-delà de la répétition, il y a des actes, des ruptures, des rencontres, un désir qui mène votre vie. Votre personnage est un personnage exceptionnel et crée l'admiration. Mais à aucun moment vous ne vous posez en modèle. Vous êtes plutôt modeste dans ce livre. Et votre trajet, me semble-t-il, et c'est en ça que votre livre est précieux, manifeste le trajet que tout un chacun, même les plus nantis de nous, fait avec plus ou moins de réussite. Au fond, cette sorte d'immigration intérieure, nous sommes tous des immigrés intérieurs de nous-mêmes, hein, selon l'expression d'Annie Ernaux, je sais que c'est une auteure qui vous touche à tous les deux, entre ce qui nous a été donné, ce que nous avons reçu, ce que nous en avons fait, ce que ça a fait de nous, ce que nous avons cherché, ce qui nous a percuté dans notre corps, des paroles, des silences, des cris, des annonciations, des oracles, qu'ils soient de bonnes ou de mauvais augures, des conseils, des proverbes. Votre livre en est truffé. La mort et la violence marquent la vie de Patrick Bourdet, le suicide de son père d'abord, la mort de sa petite sœur qui est le premier traumatisme. La violence et l'alcool, vous le dites, vous l'écrivez, a marqué votre corps par une aversion et c'est un effet direct dans le corps qui vous est resté. Je vous invite à lire ces pages qui sont très touchantes et très justes dans un bien dire. Vous en gardez les marques. Et même, vous dites, avec une certaine paranoïa, comme une marque un peu indélébile, qui fait que le Bourdet-san samouraï, le nom qui vous avait été donné, vous oriente dans votre rencontre et vous gardez une méfiance première à chaque rencontre, mais aussi, du même coup, ça c'est l'envers de la chose, une confiance accordée. Ça, je voudrais vous interroger là-dessus, sur ce rapport à ça. Les rencontres sont absolument essentielles dans ce livre et c'est pour ça que je pense qu'ils vont toucher beaucoup les praticiens de la parole, quels qu'ils soient, parce que vous ne vous considérez pas, si j'ai bien compris, comme un autodidacte ni comme un self-made man qui se serait fait sans les autres. Mais vous considérez, c'est l'hypothèse, enfin, je vous soumets ça, comme le fruit de rencontres. D'ailleurs, c'est le proverbe que vous avez voulu comme épitaphe sur la tombe de votre père, l'arbre se juge à ses fruits. Et vous passez votre temps dans le livre, c'est très touchant, c'est très enthousiasmant, à remercier avec beaucoup de reconnaissance toutes les mains tendues. Je crois que vous avez vraiment l'art de la rencontre. Alors il y a les bonnes, alors il y a... C'est vraiment truffé de personnages. Alors, il y a les garagistes, l'éducateur qui n'est pas là mais qui a donné une lettre. Il s'excuse, mais il vous a donné une lettre, là, tout à l'heure. Le juge pour enfants, qui est là. Les copains du football, les entraîneurs, les familles d'accueil, les familles des copains. Des chauffeurs de voiture, notamment les conducteurs qui vous prenaient en autostop. Vous avez un souvenir particulier pour le chauffeur de la Mercedes, peut-être un goût aussi pour la Mercedes, dont vous donnez la couleur. Vous remerciez aussi les propriétaires des bateaux dans lesquels vous vous êtes glissé quelques nuits quand vous ne saviez plus où aller. Au fond, vous les remerciez, voilà, de ne pas avoir trop cadenassé les choses. Vous remerciez le curé qui vous a donné de l'aide pour les mathématiques et qui vous a aussi donné un proverbe. Enfin, pas un proverbe. Il vous a donné, lui, un, comment dire, une phrase, il dit quelque chose qui est « pas trop de confort, ça avachit », quelque chose comme ça. Donc ça c'est précieux, vous le captez, vous en faites quelque chose. Vous gardez aussi la phrase d'un prof qui lui dit, à la fin d'un cours, « tu devrais continuer tes études après le CAP ». Et au fond, vous repérez tout de suite l'indice d'un désir pour vous, quelqu'un qui veut quelque chose pour vous, qui sait quelque chose sur vous, et qui vous donne une voix, vous la prenez, vous en tirez les conséquences. Il y a les parrains multiples, professionnels, M. Jouan, qui vous soutient, qui vous fait le pari. Je l'ai dit, le directeur de Subdeco, qui vous prend parce que c'est vous. Parce que, voilà, celui qui vous dit, mais au fond, pourquoi je vous prendrais vous plutôt qu'un autre ? Il dit, je ne sais pas pourquoi vous prendrez ou pas les autres, mais pour moi, vous pourriez me prendre parce que je suis courageux. Il vous prend, etc. Vous faites mille métiers, mécanicien, débroussailleur, bûcheron, livreur, chauffeur, nettoyeur, spécialiste de l'aspiration,
cadre. Je revendique ça.
Vous revendiquez beaucoup, oui, votre art de savoir aspirer tout ce qui, toutes les poussières. C'est voilà. Ça. Très méticuleusement. C'est très drôle d'ailleurs. Comme, oui. Voilà, on sent que c'est quelque chose pour vous. Voilà, vous devenez cadre, PDG, psychothérapeute. Voilà. Et puis, il y a des femmes. Il y a des femmes, ça commence très tôt, à 8 ans, des gentilles et jolies monitrices, vous êtes sensibles. Les femmes font partie d'une série que j'invente ou que je relève, je ne sais pas ce que vous en direz, les femmes en IN. Il y a Lynn, votre sœur,
oui.
Il y a Anita Benedito, il y a Annie, l'Australienne, que vous rencontrez dans un train.
En France.
En France, elle vous parle très longtemps, vous lui portez les valises, elle vous donne son adresse en Australie, qu'à cela ne tienne, vous partez en Australie, elle vous offre sa générosité, son hospitalité, sa maison, et beaucoup d'autres choses aussi. C'est aussi pour vous, ça vous savez capter ça aussi, la rencontre avec le cancer. La première personne, en tout cas qui vous frappe, qui a un cancer, et ça va avoir une suite logique, me semble-t-il. Dans votre existence. Il y a aussi, alors c'est pas il, mais c'est Anouche qui vous interprète en vous disant que vous êtes tricoté de ses silences et de ses paroles et de ses cris, de ses paroles entendues, de ses paroles attendues, ou qui sont venues ou qui ne sont pas venues. Il y a aussi Amélie qui vous envoie une lettre d'espoir dans le traitement, hein, parce qu'elle elle sait que vous recherchez un traitement contre le cancer, elle vous donne toute sa confiance, cette rencontre est manquée, car la mort va vous séparer, hein, vous n'avez pas pu vous rencontrer, mais cette simple lettre, me semble-t-il, vous met dans l'engagement, dans le devoir de réussir. Et au fond, c'est, voilà, c'est femme. Il y a aussi la rencontre avec, vous l'écrivez comme ça, vous me dites si c'est exact, la psy, à Caen. À entendre comme vous voulez, à quand, que vous allez rencontrer à un moment particulier de votre existence, qui est à la fois le décès de votre mère, votre mariage et le moment où vous devenez père. Mmh. Et donc là, cette femme, cette psy, vous aide à traverser votre passé pour continuer, telle une boule de feu, vers l'avenir. Voilà. Et puis, il y a toutes ces inventions. Alors ça, cette psychothérapie, elle dure 15 ans, le travail de la parole. Hein. Voilà. Et il y a aussi l'écriture de ce livre, qui dure 10 ans à peu près. Voilà, plus que ça. Bon, vous nous préciserez ça. Voilà. Et qui a toute une série de conséquences. Ce moment, ce tournant, cette prise dans la parole. Et c'est très drôle parce qu'à un moment, vous utilisez, entendons bien les mots, la prime de mutation. Vous êtes muté, c'est une promotion, c'est un changement de poste, on vous donne une prime de mutation. Et bien, pour accompagner cette mutation subjective, vous vous servez de cet argent comme un solde symbolique de la dette envers votre père pour faire une tombe assez digne pour votre père, avec l'épitaphe que j'ai citée tout à l'heure, « On juge l'arbre à ses fruits ». Bon, il n'y a pas d'ambition sans mélancolie. qui l'accompagne souvent. Longtemps, les idées noires vous accompagnent, mais un jour, vous troquez le fusil qui vous a longtemps fait, que vous avez fait suivre, contre la plume et le clavier, et avec l'argent du fusil, vous vous achetez un éléphant en racu, ce qui est le signe de la vie, qui est aussi la couverture du séminaire de Lacan. Je vous dirai. Alors, on s'impatiente de vous entendre. Je crois que j'ai donné quelques pistes pour passer directement la parole à Patrick Bourdet.
Merci, merci mille fois. Je suis, si je me mets vraiment à l'écoute de ce qui s'opère en moi, je suis d'abord touché de voir cette salle pleine. C'est quelque chose de très singulier, finalement, de... comment dirais-je, de percevoir cet intérêt, tandis que sur mon chemin, et en particulier dans mes jeunes années, résolument, il n'y en avait aucun. Donc il y a une espèce d'inversion des polarités qui est assez fascinante, et je suis très sensible au fait que cette salle soit pleine et que vous soyez dans cette, enfin, présent pour moi ici. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, personne près de moi m'avait fait part de son ressenti de manière aussi fine, et ça me touche beaucoup. Et ça me touche beaucoup parce que à travers ces mots dits par vous, reprenant les miens, vous remettez en humeur des choses qui évidemment sont très profondes, que j'ai beaucoup regardées certes, mais qui comme ça dans ce moment maintenant public anime des choses extrêmement profondes et qui sont évidemment sensibles, qui le seront à jamais, que je peux désormais regarder, avec lesquelles je peux jouer, mais en tout cas qui sont toujours très sensibles. Et donc je suis un petit peu promené comme ça entre ces différentes émotions et dans la conscience très fine que j'ai la voix complètement cassée.
Mais ça ne vous empêche pas de vous entendre.
Donc voilà. Alors, vous avez cité des mots qui sont très, très importants et vous avez vu juste, résolument juste, vous parlez de liberté. C'est ce désir de liberté qui me permet de vivre. Et il y a dans l'image que je prends parfois, c'est que dans ma tête, il y a une fenêtre. Et quoi qu'il m'arrive, je suis capable de passer par cette fenêtre et de finalement me transporter dans un monde ou ailleurs. Et cette capacité-là, elle m'a été utile enfant, très très utile, parce qu'effectivement la situation était difficile, était complexe, tendue, violente, etc. Et donc il y a dans ma tête, il y a une espèce de fenêtre comme ça, par laquelle j'ai pu m'évader, et qui est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est toujours extrêmement libre, très très libre, et avec un travail sur le temps qui a consisté, si vous voulez, en quelque sorte. C'est très jeune, j'agissais finalement avec la volonté de ne pas faire, de cacher finalement ce qui était ma vie d'enfant, etc., mes faiblesses, etc., et d'essayer d'être finalement dans une représentation qui était presque obligatoire pour essayer d'être finalement aimable quelque part. Et donc j'ai travaillé jeune à faire en sorte de ne pas être qui j'étais en quelque sorte. Et ce qui m'anime énormément aujourd'hui depuis de nombreuses années, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'image que j'ai, c'est vraiment ça. C'est faire en sorte que la distance entre comment je suis perçu par l'autre, qui je suis fondamentalement, soit la plus faible possible. Parce que j'ai mesuré que quand il y avait une distance importante entre comment je suis perçu et finalement comment je suis, un tiraillement finalement qui me fait m'éloigner de qui je suis vraiment. Et ce tiraillement, il est douloureux. Donc ce que je fais très humblement, et je sais que c'est sans fin, mais c'est vraiment d'essayer d'être le plus congruent et le plus aligné possible pour honorer, évidemment, maintenant m'autoriser à honorer un peu qui je suis fondamentalement vraiment et faire en sorte aussi d'être entièrement disponible tel que je suis vraiment pour l'autre. Et donc la liberté m'a aussi amené à peut-être, ou la curiosité aussi, essayer de faire ce travail de je ne pouvais pas vivre dans le monde dans lequel j'étais arrivé. Et j'ai décidé d'en partir à l'âge de 16 ans parce que ce monde était insupportable pour moi. Et c'est difficile de quitter ce monde-là, aussi violent soit-il, mais c'était important. Et donc, j'ai eu cet élan de liberté à ce moment-là. Ensuite, vous parliez tout à l'heure de... Vous me qualifiez d'exceptionnel. Je n'ai pas du tout ce sentiment, très, très honnêtement. Par contre, ce que je crois, c'est que le monde dans lequel j'ai vécu m'a fait prendre conscience extrêmement tôt du caractère éphémère de la vie dans cette peau-là. On peut débattre par ailleurs de tout un tas de sujets, mais dans cette peau-là, j'ai fait le constat précoce du caractère éphémère de la vie. Et ça, c'est un ressort qui a été pour moi un ressort extraordinaire de vie, en fait, de désir de vivre. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître l'enfer pour avoir ce ressort, mais pour ce qui m'a concerné, c'est le fait d'avoir vécu des situations d'une violence inouïe, métabolique, d'une violence qui rentre dans les cellules. Enfin, j'en parlais tout à l'heure avec... maintenant, je peux vous appeler Anita, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. J'en parlais à Anita, mais... être réveillé par un coup de feu, par exemple, quand on est un jeune enfant, si vous voulez, la peur, elle devient cellulaire, c'est-à-dire qu'elle va imprégner votre corps. Et ça, c'est difficile à évacuer. Et donc, par le travail sur moi et par cette curiosité, etc., j'ai pu, avec le temps, non pas évacuer ça, puisque c'est toujours là, mais vivre avec de manière presque normale. Et c'est vrai que je parle de paranoïa, et j'en parle bien volontiers, parce que Et c'est vrai que les premières années de mon existence, de ma vie de jeune homme, finalement, ont été aussi très orientées sur un sentiment extrêmement fort d'insécurité qu'il a fallu aussi combattre. Et voilà, et les choses se sont faites avec le temps. Et donc aujourd'hui, j'ai une existence... ce mot de normalité me heurte un tout petit peu toujours, mais en tout cas, je suis bien dans mes pompes, si on fait court. Hein, voilà, je suis bien dans mes pompes aujourd'hui. Et j'essaie encore une fois très simplement de faire très attention à mes enfants, de faire très attention aux gens autour de moi, de faire très attention aux gens que j'aime et de faire très attention à mes efforts dans la sphère professionnelle pour qu'ils puissent effectivement, je l'espère vraiment, y avoir un impact des travaux que je fais au plan professionnel avec mon équipe merveilleuse sur cette pathologie qui est sans merci et de moins en moins sans merci, mais qui est sans merci. Et je ne sais pas si c'est d'intérêt, mais j'ai presque envie de vous dire un petit mot de ce que nous faisons aujourd'hui. Ça peut être intéressant, peut-être.
Et peut-être aussi comment vous avez trouvé ça. C'est formidable dans le livre.
Oui, alors... là peut-être aussi c'est intéressant par rapport à la liberté, c'est-à-dire que encore une fois c'est voilà, bon, il se trouve que je travaillais sur un grand site industriel et dans le cadre des études que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai effectivement demandé à la société qui m'employait si elle était d'accord pour financer mes études et elle m'a dit d'accord, mais par contre la contrepartie ce sera un mémoire que tu devras rendre, mémoire de troisième cycle sur un des sujets qu'on va te proposer. Et la société m'a proposé trois sujets, deux un peu chiants. J'ai pris le troisième, un projet sur la performance industrielle, ça ne m'amusait pas beaucoup. Un projet sur les relations aux organismes sociaux, aux organisations syndicales, ça ne m'a pas fait beaucoup vibrer, très honnêtement, à ce moment-là. Et un projet sur la possibilité de trouver de nouvelles activités, etc. Alors là, il y a un grand espace de liberté, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai fait ce travail, ces études, etc. Et au bout de deux ans, j'ai présenté un mémoire et l'une des idées... était d'extraire un métal très très rare de la société, donc des procédés de la société dans laquelle je travaillais, sur un site industriel, pour en faire un médicament anticancéreux. Et il se trouve que cette idée, après, je fais très court, a fait l'objet d'un certain nombre de récompenses au niveau mondial en interne, et puis après au niveau international, avec la Fondation Clinton à New York, dont j'ai reçu un prix. Et cette idée a grandi. Et là, ce qui est cette innovation en fait à cheminer, et par rapport à la liberté, quelque chose d'assez important et intéressant peut-être, c'est jouer, c'est que pour la faire vivre, j'ai beaucoup désobéi. Et en fait, j'ai beaucoup transgressé. Et je me suis dit à un moment donné, mais si ce parcours qui est le mien avait été différent, est-ce que ma capacité à transgresser finalement aurait été du même ordre? Et j'ai le sentiment que non. Les experts disent très très bien, il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. C'est un monsieur qui s'appelle Luc de Brabander, qui est un expert du sujet. Et voilà, donc c'est un peu cette histoire-là qui est née. Et finalement, cette idée, je ne l'ai jamais lâchée. Et petit à petit, j'ai réussi à convaincre. Et vous parliez tout à l'heure de self-made man, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans l'histoire des hommes, vraiment, de projet qui se soit... qui furent des succès réalisés par les hommes seuls, ça n'existe pas. Et donc à partir du moment où typiquement sur un sujet comme celui-là, on n'oublie pas spontanément que nous sommes nous-mêmes à l'origine de l'idée, on va tuer le projet dans l'œuf. Donc le premier des deuils à faire, c'est de l'idée. Oui, effectivement, j'ai eu cette idée, mais elle appartient à tout le monde maintenant. Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où elle est posée là et qu'elle appartient à tous, elle peut vivre. Alors ce que nous faisons, c'est, en gros, si vous voulez... pour faire très court, et les médecins me pardonneront dans la salle s'il y en a, mais lorsque le désordre cellulaire apparaît, en surface des cellules malades, des antigènes apparaissent. Le système immunitaire se met en route et il y a des mécanismes qui sont là pour réparer les cellules qui se mettent en route, des antigènes. Et ces mécanismes-là, à partir du moment où ils se mettent en marche, ils émettent des signaux chimiques. Voilà, il y a un petit peu de chimie qui s'opère. Et à partir du moment où ce signal chimique est émis, il y a aujourd'hui un certain nombre de technologies qui permettent de développer des vecteurs, on va appeler ça des vecteurs pour faire simple, des espèces de bus qu'on injecte aux patients et qui sont capables d'aller reconnaître ces signaux chimiques à l'échelle cellulaire, vraiment à l'échelle de la cellule. Et ce que nous faisons aujourd'hui, dans cette société que je dirige, qui s'appelle Arevamed, on va imaginer un bus qui se déplace. En fait, c'est très simple. Imaginez la cellule malade qui émet un signal chimique. Et vous imaginez le vecteur qu'on est capable de créer, donc un autre élément chimique qu'on est capable de créer à l'extérieur du corps du patient. Et ce vecteur, il est capable de reconnaître le signal chimique. Donc il va aller directement sur la cellule et que sur la cellule. Et ce que nous faisons en plus de ça, c'est qu'on attache finalement à ce vecteur-là une petite, on va appeler ça de la colle. Grâce à de la colle, on attache quelques atomes d'un métal très très rare et on envoie l'ensemble à la conquête de cette cellule, et c'est l'énergie qui est émise par ce métal quand naturellement il évolue par la loi radioactive de la radioactivité naturelle, l'énergie qui est émise par ce métal quand il évolue va frapper la cellule malade et va la frapper avec une telle violence qu'il va y avoir une double rupture de la chaîne ADN, et donc on va tuer la cellule malade. Et donc ce qui se passe là, c'est que les traitements que nous développons, ils sont d'une violence inouïe mais à l'échelle cellulaire. Et donc, on imagine le bénéfice en termes de non-toxicité, etc. etc. Et aujourd'hui, ces médicaments sont désormais sur des patients. Et on vient de terminer ce qu'on appelle la phase 1 pour les experts. C'est la première étape du développement des médicaments. Et le métal que l'on injecte, c'est son petit nom, c'est du plomb-212. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce avec quoi on travaille aujourd'hui, si je prends cette bouteille d'eau, il y a plus de plomb que ce qu'on injecte aux patients. Puisque le poids de notre médicament aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2,4 nanogrammes, donc 2,4 milliardièmes de grammes de plomb. Et grâce à ça, on a un impact assez fantastique aujourd'hui sur les pathologies qu'on souhaite vraiment traiter. Donc évidemment, c'est la science qui dicte le rythme des avancées, donc on va y aller de manière très progressive, etc. etc. La promesse est belle, on n'est pas encore au bout. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a déjà des médicaments qui... sont administrés à des patients dans le cadre de protocoles de développement clinique sur des maladies agressives, hein, vraiment des cancers intrapéritonéaux, des cancers des ovaires, des pathologies un peu agressives. Voilà ce que nous faisons. Et donc, je voulais simplement évoquer ça parce que c'est, vous le disiez très justement, cette rencontre avec Annie, cette dame en France dans ce train, et une générosité d'une dame extraordinaire. Et quelques années plus tard, je décide d'aller en Australie, je la recontacte et elle m'accueille dans un monde à des années-lumière du mien, vraiment. Et à un moment donné, je lui demande, mais je ne comprends pas, Annie, pourquoi êtes-vous si généreuse avec moi, si gentille? Et elle me dit, mais tu sais, quand je t'ai rencontrée à Paris, dans cette gare, à Saint-Lazare, il y avait plein de monde, pourquoi vient-elle vers moi? J'en sais rien. Mais elle me dit, tu sais, quand tu m'as proposé de porter mes valises, puisque nous allions dans le même train, tu m'as sauvé la vie, parce que je rentrais de chimiothérapie et j'étais dans un état de fatigue absolument incroyable. Et quand tu m'as proposé de porter ces valises-là, ça m'a sauvé. Et je me retrouve en Australie 3 ans plus tard, dans une maison où les gens collectionnent les voitures anciennes, une maison avec des colonnes, enfin, les gens m'amenaient au casino, ils me donnaient un monde à des années-lumière du mien, où ils m'ont enseigné en fait les modes de fonctionnement d'une classe qui n'était pas du tout la mienne, et avec un amour et une affection, etc., comme si j'étais un personnage important. Enfin, c'est incroyable. Et donc j'ai été très sensible à ça, et cette rencontre avec le cancer, ça a été ce moment-là. Et quelques années plus tard, évidemment, le contact avec Annie a demeuré, avec ses enfants, que je suis encore en contact aujourd'hui avec ses enfants. Mais lorsqu'Annie est morte, j'ai été vraiment profondément blessé. Et donc, dans ce que nous faisons aujourd'hui, il y a une grande vigilance qui s'impose à nous, parce que la promesse est très, très, très belle, mais en même temps, il ne faut pas créer de faux espoirs, parce que les patients sont tous autour de nous, et je veux être très prudent quand je parle de ce sujet-là, parce que tous autour de nous, on a nous-mêmes, etc., on est tellement confrontés au contact de la maladie qu'il faut être très prudent. Donc oui, la promesse thérapeutique est belle, mais il y a encore un petit peu de travail pour qu'on arrive à des médicaments dont des patients pourront bénéficier. En tout cas, aujourd'hui, on avance avec détermination. Avec détermination. Voilà, avec détermination. Voilà.
Bien, alors, à propos de détermination, il y a eu une rencontre déterminante qui est celle de vos 16 ans dans le bureau du juge pour enfants. Et peut-être, c'est ce qu'on a évoqué en préparant juste avant la table ronde, peut-être l'un et l'autre, vous pourriez dire ce que ça a été pour vous, cette rencontre déterminante.
Je crois que plutôt Patrick va dire ce qui a été déterminant pour lui, parce que moi, je n'ai fait qu'essayer de reconstruire, parce que Patrick, c'est pas pour dire, mais je ne l'ai vu qu'une fois, et même si ça a été un temps fort pour moi, pour lui, ce ne fut qu'une fois, alors qu'il m'est arrivé de revoir des familles et des enfants et des gamins, bien évidemment, plusieurs fois. Donc je ne sais plus qu'est-ce qui du souvenir, on est 30 ans après, voyez-vous, ça nous a fait beaucoup d'émotions ce matin quand je suis allée chercher Patrick, on s'est embrassé à 2 reprises, comme si on avait besoin d'un temps de dire mais oui c'est lui, mais oui c'est elle, et voilà quoi, voilà, on a parlé depuis pas mal, excusez-moi, je suis toujours un peu... Donc, je ne sais plus si c'est un souvenir reconstruit. En tout cas, dans ce que Patrick m'a dit que j'avais dit, parce que moi, je le demande souvent quand on me dit « je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit », c'est fréquent que dans l'après-coup, on me dise soit la personne... intéressée, soit il m'est arrivé des avocats qui disent ah, vous savez, j'ai rencontré ma cliente qui m'a dit, je n'oublierai jamais ce que cette petite chuche, parce qu'effectivement je suis une petite chuche, a dit, et moi je dis tout le temps c'est quoi que j'ai dit. Je ne suis pas obligée de me souvenir, mais parce que justement ce qui se dit, très tôt j'ai eu cette idée de ce qu'il y avait nécessité, pas contingence, mais à partir d'une contingente rencontre, il y avait une nécessité de construire un bien-dire dans ce lieu-là. Parce que juger, trancher, décider pour l'autre, c'est vraiment déjà essayer de séparer, c'est-à-dire mettre du symbolique là où il n'y en a pas, en tout cas pas assez. Et donc, ces décisions ont toujours... quoi que l'on fasse, au civil, au pénal, au familial, une extrême portée pour l'autre. Et donc, voilà, c'est vrai que dans les paroles de Patrick, je me suis reconnue, parce qu'effectivement, il a raison, pas d'innovation, pas de création, sans qu'il y ait un moment un peu de mélancolie, et il faut savoir effectivement pousser ces affects que Spinoza... appelle les affects tristes, ceux qui sont faits de haine, de colère, etc., même s'ils peuvent être porteurs, il faut les transformer, il faut faire en sorte qu'ils se combinent à d'autres affects qui font le fondement, j'ai envie de dire, du désir. Et j'ai eu plaisir à relire cette partie de l'éthique de Spinoza pour bien m'imprégner de ce qui a pu se passer. Parce qu'en réalité, comme je l'ai expliqué à Patrick la première fois où il m'a appelé de Washington, et ça a duré presque une heure, j'allais aller au cinéma, mais la séance fut meilleure. C'est qu'en effet, comme souvent, comme toujours, comme l'a dit Catherine aussi au sujet de nous trois, son histoire est venue croiser la mienne et donc venue vraiment me bousculer dans mon intériorité, dans ce que moi aussi je suis devenue, puisque bon, voilà, je viens d'une famille, un, particulièrement modeste, deux, qui n'était pas du tout, où rien n'était fait, d'ailleurs il n'y avait pas un seul bouquin chez moi, donc rien n'était fait pour que j'entreprenne même des études supérieures ou je change même de classe sociale. Voilà. Donc, j'aimerais que ce soit lui qui parle de ce que j'ai pu dire, mais en sachant tout ça, quoi, que, en effet, le dire, on ne le sait que dans l'après-coup, si la parole a eu un effet sur l'autre, un effet de rencontre, pour qu'en effet, il puisse s'en saisir. Il y a toujours dans cet acte de la parole un désir, et tant mieux si quelquefois, pas toujours sans doute, ce désir est venu soulever le sien. Et très souvent, j'étais juge des enfants longtemps, mais j'étais encore plus longtemps juge d'application des peines. Et pareil, dans offrir à l'autre un signifiant qu'il reconnaisse, c'est lui permettre d'aller plus loin dans ce qu'il va tenter et comment il va accrocher un désir à celui-là. Voilà, je ne sais pas, j'ai trop parlé sans doute. Excusez-moi.
C'est ce moment, puisqu'on fait, n'est-ce pas, référence à ce moment particulier, ce qui se joue en amont, en fait, c'est, donc j'ai 16 ans, hein, et un soir dans cette cabane dans laquelle nous vivons, je suis vraiment à bout, vraiment, et je prends conscience, en fait, de la folie dans laquelle je vis. Parce qu'en rentrant de l'école, il y avait 6 km pour aller à l'école le matin, 6 km le soir, dont 3 km en forêt. Mais, peu importe d'ailleurs. Mais je rentre dans cette maison et au-dessus de mon oreiller, je vois un trou. Donc j'ai un lit, on avait une petite chambre avec mon frère, on avait les deux lits. Entre les deux lits, il y avait ça comme espace et au milieu une petite planche sur laquelle on plaçait une bougie, puisqu'évidemment il n'y avait pas d'électricité. Et au-dessus de l'oreiller de mon lit, je vois un trou. Et là, c'est un déclic, je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, la soirée est violente, etc. Et je me dis, il faut que je parte parce que je vais devenir fou, en fait. Je vais vraiment devenir fou. Et ce soir-là, donc j'ai à peu près 16 ans, et je décide de partir. Et je dis à ma mère, qui essaie de me retenir vraiment, qui me tient à l'extérieur et qui me dit, ne pars pas, et ne pars pas. Et elle est évidemment ivre, etc. Enfin, c'est un moment très violent. Et je la regarde et je lui dis, plus jamais de ma vie, je dormirai dans cette cabane, plus jamais de ma vie. Et je m'en vais. Et donc j'arrive devant les grilles, donc je fais mes 6 km à pied, j'arrive dans le centre-ville de La Teste, pour ceux qui connaissent, j'arrive devant les grilles de la gendarmerie. Donc on est en pleine nuit, j'ai fait 7 marches forestières plus 7 marches dans la ville, et j'arrive devant les grilles de cette gendarmerie et je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter à ces malheureux gendarmes en plein milieu de la nuit ? Et donc je repars dans la forêt, rejoindre mon frère qui était dans une autre cabane, peu importe. Mais le lendemain, je vais voir Alain Taris, qui était l'éducateur qui nous suivait à l'époque. Et ce monsieur m'accueille, m'écoute, et il me dit, OK, on va prendre les choses en main. Et je me souviendrai toute ma vie. Il me regarde et il me dit, tu as faim. Je sens l'émotion là. Je suis même surpris de ça, mais je vais honorer ça, donc j'ai une grosse émotion là. Il me regarde, il me dit, tu as faim? Et je lui dis oui. Il me donne une pièce, et en sortant, je vais m'acheter un paquet de camel. Et très peu de temps après, Alain Taris donc organise un rendez-vous où ma mère est convoquée et moi-même. Et il propose, puisque nous n'avons pas de voiture, il propose de prendre et ma mère et moi, de nous amener tous les deux dans le bureau de madame le juge. Et évidemment, je suis au point de rendez-vous, ma mère n'y est pas. Et avec monsieur Taris, donc nous partons et nous arrivons dans ce bureau. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Anita, je ne me souviens plus de l'endroit dans lequel ça se trouve, évidemment, à quel endroit c'était dans Bordeaux, je ne sais plus. Et par contre, j'ai un souvenir vraiment très précis de la pièce que je décris et des échanges, etc. Et de ce choix qui, à un moment donné, m'est offert. Et ça, c'est un cadeau du ciel, ça. C'est, voilà, tu peux faire ça ou tu peux faire ça, et c'est toi qui vas choisir. C'est extraordinaire pour moi, ce moment-là, parce que, en gros, les deux alternatives, c'est ou bien je vais dans un foyer de la DAS, que madame le juge me propose, mais faut mesurer ce que c'est arrivé à 16 ans dans le bureau du juge, pour moi, mais c'est... Enfin, c'est un truc vraiment, vraiment très fort, hein. Donc on a roulé, déjà ma mère n'est pas là, donc qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, je suis un peu perdu, j'ai plus de maison depuis quelques jours, enfin, c'est très compliqué. Et puis j'arrive devant cette dame, qui est vécue en noir pour le coup, ça je me souviens, et son bureau, il y avait un petit espace en fait, et elle était dans l'espace, et au-dessus, et à côté il y avait des piles, des grosses piles, et je vois cette dame face à moi. Et puis monsieur Alain Taris, donc, était resté debout, je me souviens très très bien de la scène. Donc le bureau était, en fait, c'est un peu comme si vous arriviez, voilà, et il y avait une fenêtre sur la gauche, et monsieur Taris était debout comme ça, un peu en contre-jour, et puis je vois cette dame face à moi, mais quand même, quoi. Et puis là, elle me propose deux options, donc un foyer de la DAS ou bien une famille d'accueil, et l'entraîneur de foot et sa compagne, où je jouais à Arcachon, se sont proposés à mon insu, m'ont parlé à monsieur Taris, de me récupérer chez eux. Et là, je veux citer Sylviane, qui a été merveilleuse, cette dame, cette famille d'accueil pendant 11 mois. J'ai passé 11 mois avec eux. Et ils ont été, enfin, je me suis senti aimé, etc. C'est une rupture qui est incroyable. Et je me souviens d'abord, au début, c'était assez rigolo, parce qu'elle me dit, tu sais, tu peux prendre une douche tous les jours, si tu veux. Et évidemment, la cabane, c'était l'eau froide dans une bassine. On allait au puits chercher de l'eau, quoi. Et j'avais oublié ça, des choses comme ça. Et elle me raconte aujourd'hui encore que je m'étais habitué très très vite, parce que quelques temps après être arrivé chez elle, c'est moi qui demandais à ce qu'elle m'amène en voiture à la gare. Et donc, méfiez-vous du confort. Et donc c'est un moment qui est déterminant, et nous en parlions tout à l'heure. Et j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Quand on regarde rétrospectivement nos chemins, eh bien il y a un certain nombre d'endroits où il y a vraiment des fourches, vraiment, et des prises de décision qui s'opèrent et qui sont déterminantes. Et finalement, la somme de choses qui doivent s'opérer pour qu'on puisse advenir en tant que nous, c'est d'une complexité, mais c'est incroyable. Et on est tous confrontés à ces moments clés, vraiment structurants, et où des décisions sont prises. Et si on va là, ben évidemment, c'est pas pareil. Et alors, rétrospectivement, on peut les identifier quand on regarde bien. Et c'est très intéressant. Et il y en a quelques-uns qui, pour moi, dans le début de ma jeune vie, ont été déterminants. Et c'est vrai que le passage chez ce juge pour enfants qui m'a beaucoup impressionné a été déterminant. Je me souviens de mes mots encore, en disant que si j'allais dans cette famille, les décibels proviendraient certainement de la musique. J'ai dit ça à ce moment-là. Parce que les décibels dans le monde dans lequel j'étais, ce n'était pas la musique. Évidemment, il n'y avait pas de musique. Et donc, ces moments-là, ils sont vraiment déterminants sur le chemin. Mais c'est vrai pour nous tous, j'imagine. Et puis, il y a peut-être aussi... J'avais parlé de sensibilité à un moment donné. Mais c'est-à-dire que la réalité, quelle est-elle ? Aujourd'hui, si je suis là, c'est pas parce qu'à un moment donné, ça se passe pas comme ça, en vérité. Et il se trouve que, très humblement, on doit reconnaître que ce qui s'opère nous échappe complètement. En revanche, ce qui ne nous échappe pas, c'est nos actions, le bien-agir. Moi, je suis animé par ça. Je voulais m'en sortir. Je voulais apprendre. J'étais courageux, c'est vrai. J'étais courageux. Je travaillais beaucoup. Lorsque j'étais nettoyeur, quoi. J'étais la mascotte du service parce que je nettoyais tout. je soulevais tout, j'aspirais tout, j'ai tout et tout. Et donc il y a une espèce d'engagement, mais qui s'explique aussi par l'endroit où j'étais et dans lequel je ne voulais pas rester. Donc il y a ce ressort-là. Mais je n'ai pas fait les choses en me disant un jour je serai ça, pas du tout. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait un copain qui était garagiste et qui avait une 304 Peugeot coupée. Et je me disais, mais si un jour je suis garagiste avec une voiture, mais c'est fantastique, quoi. Et la réalité, c'est que les choses s'opèrent à notre insu. Ce que nous faisons est déterminant pour la suite. On est incapable, évidemment, de cette projection-là. Et moi, j'étais très animé par faire les choses bien. Et à l'orphelinat, je me souviens, j'ai récupéré mon dossier de l'orphelinat de nombreuses années plus tard. Et j'en parle un petit peu dans le livre. Mais à l'orphelinat, les éducateurs disaient que Patrick Bourdet a une influence positive sur le groupe. Mais moi, je revendique que cette compétence aujourd'hui, parce que c'était qui j'étais quand j'étais enfant, très petit, et j'ai l'impression de... voilà, c'est vrai, moi, je me prépare ça. Et puis, j'ai l'amour des gens, c'est vrai. Et j'ai l'amour des gens. Ça m'a beaucoup frappé, ce que vous disiez sur les remerciements, parce que, pour tout vous dire, Guillaume Debray m'a dit, non, mais tu sais, enfin, vous savez, parce qu'il me tutoie, il me dit, vous savez, vous en avez mis beaucoup, hein. Il va falloir en enlever. Ah, j'étais très embêté. Alors je lui ai dit, mais non, j'ai pas envie. Il me dit, vous savez ce qu'on peut faire, si vous voulez, on va mettre une section spéciale et puis vous remercierez tout le monde si vous voulez. Il me dit, vous savez, il y en a beaucoup là. Mais honorer ses sauveurs, enfin, vous vous rendez compte, c'est. J'ai une telle conscience fine de l'impact qu'ont eu un certain nombre de personnes sur mon chemin, que ça m'a énormément touché. Quand vous m'avez dit que pour votre communauté de personnes aidantes et qui sont en relation d'aide, etc., je ne le dis pas bien, mais et pour notre communauté, j'en fais moi-même un petit peu partie, mais ça m'a beaucoup touché quand vous disiez que pour vous, ça a été un livre important parce que il met en lumière peut-être des actions qui s'opèrent dans l'ombre, qui sont discrètes dans le quotidien, qui sont invisibles du monde et qui ont un impact. Enfin, vous vous rendez compte, aider quelqu'un à s'accomplir, quoi. C'est quand même, enfin, je veux dire, c'est merveilleux, quoi. Hein, c'est merveilleux. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis moi-même, après ce long travail thérapeutique sur moi-même devenu thérapeute. Il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi du... je ne suis plus dans « je rembourse une dette », je suis plus dans ça, plus du tout. Mais aider l'autre à s'accomplir, et puis aussi, peut-être, et on est peut-être un peu tous comme ça, mais mes expériences vécues, je pense qu'elles me sont utiles aujourd'hui dans cette posture pour accueillir la douleur de l'autre. Parce que je comprends la peur, je comprends le doute, je comprends l'angoisse, je comprends la violence. Je suis à jamais, je serai habité de ce que j'ai, de ce qui m'a impacté, comme nous tous. Et je pense que ça m'aide dans ma relation aux gens aussi, maintenant que les décodages, dans la relation aux autres, maintenant que les décodages sont un petit peu opérés, je pense que ça m'aide dans ma relation. Ma relation aux autres. Voilà, et moi aussi je parle beaucoup, donc je m'arrête.
Alors, je sais qu'Anita a deux questions très précises à vous poser.
Comment vous vous sentez?
Oh là. Bon, je vais au moins une. Donc justement, ben, je vais vous faire part de mon commentaire ce midi avec Patrick. Je lui ai dit, voilà Patrick, je suis désolée de faire cette référence, mais pour ceux psychanalystes de la salle qui aimeraient la rappeler, dans son séminaire 14, Lacan dit quelque chose de très important qui parcourt quand même un petit peu tous nos discours dans les institutions. Il dit, c'est de l'imaginaire de la mère que va dépendre la structure subjective de l'enfant. Et donc, elle souligne l'imprégnation maternelle comme causale dans la structuration d'un enfant. Et je voudrais demander à Patrick, parce qu'il a souligné dans son ouvrage que son père, au moment de commettre cet acte fatal, en a posé un autre d'envergure, me semble-t-il. Il a écrit une lettre à son frère, qui était dans l'oncle de Patrick, pour qu'il place toute la fratrie, Patrick, son frère et sa sœur, dans un orphelinat, l'orphelinat de la police. Et ma question, Patrick, c'est, pensez-vous qu'à sa manière, votre père, en posant cet acte de parole par écrit, a été essentiel pour vous permettre, aux uns et aux autres, de décoller, de vous décoller de cette mère qui, a priori, on va le dire comme ça, n'était pas suffisamment structurante, n'était pas suffisamment bonne, pour parler comme un Winnicott. Voilà, est-ce que cet acte-là, c'est pas justement un acte important qui a permis que quelque chose s'opère?
C'est... Enfin, si je suis très honnête, hein, il m'a fallu 30 ans pour faire le deuil de mon père. Si je fais très court, parce que je l'ai cherché partout et il m'a manqué terriblement. Et ma lecture, finalement, a posteriori, rejoint ça. C'est-à-dire que j'ai eu un sentiment à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il s'est tué pour nous sauver. Et ça a été très douloureux, ça. Mais tandis qu'à un moment donné, je lui en voulais, mais j'ai trouvé l'acte lâche, etc. Je suis passé par toutes ces phases où vraiment je trouvais d'une lâcheté sans enfant, on n'abandonne pas les enfants, etc. Je suis passé par toutes ces étapes de colère, où le jugement est peut-être violent, etc. À quelque chose de beaucoup plus, peut-être, pour le coup, peut-être clairvoyant, où effectivement je me suis dit, mais en réalité, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et là, ça permet d'entrer dans une autre forme et d'introduire une notion qui est fondamentale aujourd'hui et sur laquelle je travaille avec ma mère, et j'y suis bientôt, qui est celle du pardon. Et finalement, la question qu'on peut se poser, qu'on peut poser finalement, et que je me pose à travers, enfin pour ma mère, c'est finalement, mais qu'a-t-elle mis en œuvre elle-même pour survivre? Et finalement, aujourd'hui, je suis presque dans... honnêtement, je suis jamais retourné sur la tombe de ma mère, mais je pense que ça va venir. Parce que je suis aujourd'hui dans un moment où je suis capable de comprendre mieux et de pardonner presque. Donc voilà, donc je chemine.
Absolument. Merci Patrick. Il me semblait qu'il y avait quelque chose là, ouais, qui avait permis autre chose, parce que je pense que de son vivant, sa parole n'avait pas l'effet escompté qu'on pourrait attendre, voyez, quand on dit le père, c'est avant tout un séparateur. Il faut bien qu'il arrache un peu l'enfant de cette gueule ouverte que nous sommes quelques-unes, là, les mères, et prêtes à aussi bien avaler notre enfant. Et donc, voilà, c'est ça un père. Et donc, peut-être que de son vivant, il n'y parvenait pas. Il n'y parvenait pas à se poser comme tel, comme ça, en père symbolique. Et peut-être qu'en effet, ce faisant, c'est un acte très fort quand même, en effet, vous avez parlé de sauver, ben, quelque chose de sa parole a pu être mis en œuvre et vous a en effet décollé et séparé. Vous voyez, on retrouve un peu ce que c'est que de juger, séparé, voilà. Et voilà, voilà un peu où on peut se retrouver les uns et les autres.
Oui, pas sans que le sujet y consente.
Certainement.
Ça, c'est formidable, parce qu'avec vos 30 ans et ce travail-là, qu'au fond, vous en fassiez cette lecture. On va peut-être conclure là, et puis...
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.